Et donc, on va parler un petit peu de comment est structuré le cours. J'aurais pu faire des chapitres classiques, mais bon, d'abord, c'est un peu classique. Et puis, c'est aussi intéressant de voir la continuité dans une entreprise. Enfin, les continuités, les inflexions. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant plutôt que de faire des chapitres classiques, hein, ce que j'ai fait pendant très très longtemps. Ça fait plus de 20 ans que je donne des cours de management de l'innovation. Au début, enfin, au début, pendant très longtemps, j'ai eu des cours très classiques avec les différentes thématiques. Et puis, pour la première fois, quand c'était mon cours à Supélec pour lequel je m'étais dit, tiens, je vais présenter les choses différemment. Et j'avais pris des entreprises qui correspondait aux spécialités de Supélec. Donc, certaines sont toujours là et d'autres ont été changées. Donc, pour vous, les cinq entreprises qui vont servir de fil directeur, ce sera Renault. Je vais vous expliquer après pourquoi, hein, comment elles ont été choisies. Ce n'est pas le hasard. Sony. Donc Sony faisait des parties de mes premiers exemples à Supélec puisqu'ils ont une voie électronique. Intel, puisque là c'est l'électronique mais côté semi-conducteur, donc là aussi il y était. Apple, c'est une marque qui est souvent, enfin qui est populaire auprès des étudiants, donc je me suis dit c'était bien de mettre Apple. Donc nous, on aura aussi. Eux, ils avaient EDF, hein, parce que Supélec, évidemment. Mais nous, on aura aussi une entreprise qui n'est pas industrielle, parce que toutes les autres sont des entreprises industrielles, même si Apple sous-traite la fabrication, mais. En tout cas, qui vendent des produits physiques. Et donc, c'était.
Monsieur, de vous interrompre, il y
Oui,
a quelqu'un, je crois, dans la salle
Ah,
d'attente.
oui, Jonas, effectivement. Merci. Donc, voilà, une entreprise tertiaire, ça me paraissait quand même important qu'il y en ait une dans le lot. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que j'exclus totalement pendant le cours l'utilisation d'autres exemples. Hein. Je vous en donnerai d'autres dans d'autres secteurs, parce que là, vous voyez que. Il faut dire, je dois vous l'avouer, que j'ai un petit prisme technologie de l'information. C'est un secteur que je connais particulièrement bien. Mais donc, c'est vrai que ce n'est pas non plus totalement le hasard s'il y a et Intel et Apple. Et Sony qui participe aussi un peu dans une certaine mesure à ce secteur-là. Mais du coup, voilà, vous aurez quand même d'autres exemples, d'autres secteurs dans le cours. Mais simplement, ces entreprises-là, on verra comment à certains moments de leur histoire, telle ou telle innovation va les avoir fait bifurquer. C'est le point commun entre ces entreprises, c'est qu'à certains moments, il y a des innovations qui vont avoir vraiment façonné en grande partie la stratégie des entreprises. C'est pour ça que dans un cours de management stratégique de l'innovation, elle me paraissait particulièrement indiquée. Et puis évidemment, hein, ça ne veut pas dire que le cours ne sera que du coup une sorte de cours d'histoire. De business history, hein, comme on aurait dans une université anglo-saxonne, où je vous raconterai simplement l'histoire de Renault, l'histoire de Sony, etc. Non, bien sûr, ces différents exemples vont nous amener à certains moments à des thématiques. Alors évidemment, les thématiques, elles pourraient avoir été abordées à plusieurs moments, hein, et donc à chaque fois, j'ai choisi parce que c'était particulièrement important à ce moment-là, eh bien, je choisis d'aborder sur un plan plus théorique telle ou telle problématique. Donc, c'est comme ça que va être structuré le cours. Alors maintenant, quelques mots sur ces entreprises-là, parce que alors, elles sont plus ou moins anciennes. Je vais d'abord, pour les plus récentes, je vais simplement vous donner quelques éléments clés, et puis surtout vous indiquer pourquoi je les ai choisies, pourquoi elles sont intéressantes. Et puis, pour la plus ancienne notamment, Renault en l'occurrence, je vais aussi vous faire un petit ultra rapide petit tour de son historique, parce qu'en fait, on va pas la prendre à sa naissance, on va la prendre beaucoup plus tardivement. Donc, du coup, voilà, que vous ayez quand même une idée de ce qui s'est passé avant, puisqu'on ne va pas du tout passer toute l'histoire de Renault au crible. Alors, donc pour avoir quelques éléments sur Renault, c'est une vieille entreprise qui a été créée en 1898. Elle a été considérée à ce moment-là comme innovante. Hein, elle a déposé des brevets notamment sur la transmission du moteur aux roues hein, très tôt. Et donc elle s'est différenciée de ce point de vue-là. Elle a gagné un peu d'argent avec les licences sur des brevets également dès ses premières périodes. Donc les frères Renault, puisque elle a été créée par principalement Louis Renault, mais aussi ses frères, ils vont prouver l'efficacité de leurs innovations à travers la course automobile. Donc déjà à l'époque, vous voyez, on passait par là. Après, sur un autre style, enfin pardon, sur un autre type d'innovation, ils vont aussi faire partie des premières, alors c'est pas la première, hein, mais des premières entreprises françaises à appliquer à une grande échelle l'organisation scientifique du travail. Donc là, vous voyez qu'on est plus dans l'innovation de procédés, et même l'innovation de procédés, pas technique, mais organisationnelle. Alors, même si derrière, souvent, la nouvelle organisation va entraîner des adaptations des machines, notamment une spécialisation des machines. Il va bien y avoir des innovations techniques de procédés, mais à la base, on est quand même bien dans un changement dans l'organisation du travail. Alors, je repréciserai, il faudrait que je reprécise sur la slide, innovation technique de procédé, puisque ça reste globalement l'innovation de procédé. En fait, la complication, c'est qu'à l'origine, pratiquement tous ceux qui s'intéressaient à l'innovation s'intéressaient à l'innovation technologique. Et du coup, les termes innovation de produit, innovation de procédé, ils ont d'abord été pensés en ne pensant qu'à la technologie. Et du coup, parfois, quand on dit innovation de procédé, on pense à des innovations techniques de procédé. Et le plus souvent maintenant, on intègre dans les innovations de procédé toutes les innovations organisationnelles qui touchent les procédés. D'où voilà, le fait que ma phrase peut paraître un peu contradictoire par rapport à ce que je vous ai dit plus tôt. Ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, et c'est notamment là qu'elle va beaucoup essayer de réorganiser le travail, ils vont fabriquer dans des très grandes quantités des munitions, des moteurs d'avion et puis des chars d'assaut, enfin des tanks. Ils étaient encore un peu frustrés hein, par rapport aux chars d'aujourd'hui, mais bon. Ensuite, du coup, ayant appris à fabriquer des gros moteurs, donc ils vont aussi se lancer dans la fabrication de poids lourds, de machines agricoles. Et donc, ça va devenir une entreprise plus diversifiée. Et au niveau de l'automobile, ils vont, même s'ils ont appliqué dans une certaine mesure l'organisation scientifique du travail, ils ne vont pas aller jusqu'à appliquer complètement le système fordien, hein, le fordisme. Et notamment, ils ne vont pas chercher des très très gros volumes. Donc, ils vont rester sur quelques dizaines de milliers de voitures par an, ce qui est pas mal pour le marché français à l'époque, mais ce qui est déjà très loin de ce qui se fait aux États-Unis, par exemple. Et puis à l'époque, Renault n'est plus considéré comme une entreprise très innovante. Alors, en fait, elle continue à perfectionner en permanence ses voitures, hein, donc elle l'est. Mais celle qui va introduire les innovations les plus spectaculaires et devenir vraiment le symbole de l'innovation automobile en France, c'est Citroën. Et puis, les positionnements changent, hein, au fil du temps. Et à l'époque, Renault, c'est plutôt une marque moyen haut de gamme, hein, alors, il y a de toute façon, peu de modèles bas de gamme en France, puisque justement l'automobile est encore de toute façon plutôt réservée au CSP+, comme on dirait aujourd'hui. Mais par ailleurs, même parmi les constructeurs français, c'est plutôt voilà, un fabricant, pas de voiture très haut de gamme, très luxe, hein, mais quand même, voilà, plutôt vers le haut de gamme. Donc, quelques petites photos pour illustrer à quoi ressemblait les Renault de l'époque. Après, il y a une page moins glorieuse de Renault, c'est que Renault va fabriquer alors des pièces mécaniques, des camions, etc., réparer des chars pour l'armée allemande. Alors, c'est largement contraint, hein, évidemment, on leur demande pas tout à fait leur avis. Il n'empêche que bah, Renault accepte les contrats, accepte l'argent qui va avec, ne fait pas des gros efforts comme ont pu faire certains, par exemple, pour avoir beaucoup de production avec des petits défauts qui après faisaient que bah, les produits tombaient en panne quand ils étaient utilisés par l'armée, etc. Donc il n'y a pas eu vraiment d'acte de résistance. Renault, du coup, a été pas mal bombardé par les Alliés pendant la guerre. Louis Renault a toujours mis beaucoup d'énergie à faire redémarrer ses usines. Alors, ce n'est pas a priori hein, par adhésion à l'idéologie hein, nazie, mais c'est parce qu'il n'y a aucun de ses propos, aucun de ses écrits qui laisserait entendre que ce serait le cas. Mais par contre, apparemment, c'est bah, c'est son bébé, quoi, les usines Renault. Et donc, voilà, il ne peut pas juste les voir comme ça, ne pas fonctionner, être détruites. Voilà. Mais n'empêche que ça va être perçu comme bah, une forme de collaboration avec l'ennemi. Et donc, bah, Louis Renault, lui, sera emprisonné, mourra en prison en 1944, et Renault, par punition, est nationalisé et devient la régie nationale des usines Renault. Et alors, c'est assez important, parce que ça va complètement transformer son positionnement, puisque du coup, ça devient un outil de l'État français bah, pour réaccélérer le développement économique après-guerre. Donc c'est pour ça qu'elle va passer, par contre, la régie Renault, à la fabrication en très grande série de modèles bah, pas forcément ultra distinctifs. D'ailleurs, certains noteront une certaine ressemblance entre la 4 chevaux, qui est la voiture d'après-guerre qui a fait redémarrer Renault, et la coccinelle de Volkswagen. Il y a quand même un petit air de famille. Alors du coup, bah, au niveau des voitures, encore moins que dans l'entre-deux-guerres, ils vont être spécialistes de l'innovation, alors que pendant un certain temps, Citroën va continuer, hein, avec la fameuse DS, par exemple, qui était une voiture mais vraiment ultra moderne pour l'époque. Donc, eux, au contraire, vont se positionner plutôt sur le créneau des voitures populaires, même s'ils vont reformer une gamme complète, hein. Ils vont avoir des voitures plus haut de gamme, mais enfin le cœur de la gamme va plutôt être sur du volume et peu d'innovation. Par contre, quand on veut faire, donc quand on se rapproche plus finalement d'une stratégie de domination par les coûts, hein, ce qui est le cas de Renault, évidemment, on va porter beaucoup d'attention aux procédés de fabrication. Et par exemple, dès l'immédiate après-guerre, Renault conçoit des nouveaux systèmes de machines qui permettent d'améliorer considérablement sur les lignes de fabrication, enfin les chaînes de fabrication. Le transfert et les changements d'outils, donc qui vont donner un degré d'automatisation supplémentaire, en gros, hein, c'est pas la peine d'entrer dans le détail, de leur système de fabrication. Ils vont d'ailleurs, du coup, avoir pendant longtemps, je sais pas si c'est encore le cas. Je sais pas en fait. Mais pendant très longtemps, ils vont aussi du coup avoir une activité alors assez secondaire hein, par rapport à leur activité de fabricant, de constructeur automobile. Hein. Mais ils vont aussi proposer leurs machines à d'autres constructeurs automobiles. Donc voilà, au niveau des véhicules, peu d'innovation. Donc on pourrait se dire, ok. A priori, quelle drôle d'idée de prendre Renault alors que j'arrête pas d'insister sur le fait que bah, finalement, bah, une entreprise très innovante au niveau des produits, bon, les machines transfert, ok, mais bon, c'était il y a longtemps. Au moment où elle sort la Renault 4, on pourrait se dire c'est une voiture un peu originale pour l'époque, sauf que en fait, même si le design est différent, le cahier des charges est tellement proche que Citroën va crier au plagiat. Alors plagiat, c'est quand même un peu excessif, hein, c'est pour ça que j'ai mis les deux photos des deux voitures l'une à côté de l'autre. Voilà, sur les caractéristiques, par contre. Elles sont vraiment pas si éloignées en effet. Donc en tout cas, ça illustre aussi le côté Renault, entreprise suiveuse de Citroën. Alors, bon, il ne faudrait pas caricaturer. Renault a quand même introduit quelques innovations importantes pendant cette période des années 50, 60, 70. Notamment la principale, mais ce n'est pas pour ça qu'elle va nous intéresser, mais quand même, sachez que c'est une des toutes premières entreprises à avoir introduit des voitures dites 5 portes, hein, donc avec un hayon arrière des voitures. Donc, notamment avec la R4 déjà un peu, mais surtout de façon très claire, parce que là on peut vraiment rentrer par la voiture par l'arrière, la Renault 16. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est deux épisodes qui sont particulièrement intéressants. Ah, ça fait beaucoup d'intéressés dans la même phrase. Bon. C'est le fait que Renault a été un des pionniers dans le domaine des monospaces, mais on verra par ailleurs qu'il a été pionnier d'une façon très particulière. Donc ça permet d'aborder les problématiques d'innovation ouverte, mais aussi comment dire, de paradoxe d'Icare, hein, le fait d'appliquer trop et pendant trop longtemps la même stratégie. Et puis, évidemment, de façon plus récente, pour le fait qu'elle a parié plus tôt que les autres constructeurs sur la voiture électrique, que les autres constructeurs qui faisaient des voitures thermiques. Hein. C'était après Tesla, mais c'était avant Volkswagen, Stellantis, etc. Donc voilà pour Renault. Alors les autres, je vais être un peu moins long sur l'historique, parce que bah, leur historique est plus récent, et en plus, pour beaucoup d'entre elles, on va les prendre paradoxalement plus tôt. Parce qu'évidemment, ben voilà, c'est les thématiques qui m'intéressent. Donc, vous voyez, Renault, on ne va s'y intéresser qu'au début des années 1980. Donc c'est pour ça qu'il s'était déjà écoulé plus de 80 ans d'histoire. C'était difficile de ne pas en parler du tout. Pour les autres entreprises, on va les prendre au vol plutôt après leur naissance, et même directement après leur naissance pour certaines. Alors Sony, c'est plutôt... on ne va pas s'intéresser au tout début de Sony. Hein. Mais bon, voilà, donc du coup, pour avoir un peu l'historique, elle est créée par deux ingénieurs qui font à ce moment-là... Le Japon est dans un état, a été largement détruit hein, par la guerre. Et donc, ils font surtout de la réparation en fait, de matériel électrique. Mais assez vite, ils se mettent à en concevoir. Donc, d'abord, des choses un peu simples. Et puis, assez vite, ils vont, par exemple, être une des toutes premières entreprises à proposer des magnétophones au sens un peu moderne du terme. Et puis, comme beaucoup d'autres entreprises, hein, Sony obtient une licence auprès de AT&T, qui est l'entreprise qui a inventé le transistor. Et donc, ils commencent à fabriquer des transistors. Alors, au passage, par rapport au Sony d'aujourd'hui, je le dis parce que ce n'est pas la partie qui va le plus nous intéresser, hein, on verra juste dans quelques circonstances que ça a pu lui rendre service, hein. Mais c'est pas ce qui nous, c'est pas là-dessus qu'on va se focaliser. En tout cas, aujourd'hui encore, Sony fabrique des semi-conducteurs. Donc voilà, ce qui est finalement assez rare chez les entreprises d'électronique grand public. En gros, il y a Samsung qui fait ça aussi. Je crois que c'est à peu près tout. Peut-être certaines entreprises chinoises, mais voilà, il y a peu d'entreprises qui sont à la fois sur le produit grand public et sur les composants de ces produits. Mais c'est aussi pour ça que Sony va être une des toutes premières entreprises dans le monde, par exemple, à proposer des postes radio à transistor. C'est comme ça qu'elle va se faire un peu connaître. Voilà, d'abord au Japon et puis un peu à l'étranger. Et puis, elle est aussi très connue pour le lancement du Walkman, hein, le baladeur, le premier avec ses cassettes, celui que vous voyez dans des vieilles séries, des vieux films, ou les nouvelles séries qui aiment bien mettre des vieux trucs. Parce que c'est assez à la mode, le vintage. Donc, nous, on ne va pas s'intéresser tellement au Walkman, on ne va pas s'intéresser à toutes les innovations de Sony, parce que là... Sinon, elle aurait pu nous suffire en soi, mais on va plus particulièrement nous intéresser aux stratégies de diffusion dans les domaines surtout de la vidéo et un peu de l'audio. Et donc, parce que Sony a une particularité, c'est notamment qu'elle a été partie prenante de plusieurs batailles de standards. Et du coup, ben, on va notamment s'intéresser à cette dimension, mais bon, pas seulement, mais notamment à ça, à travers Sony. Intel. Alors là, on est plutôt pour le coup dans la partie, dans l'arrière-boutique, hein. Je pense que vous n'avez, a priori, pas acheté de produits Intel directement, hein, mais par contre, vous en avez peut-être un dans votre ordinateur. Donc pour avoir un peu l'historique, même si là pour le coup on les prendra aussi enfin on les prendra presque au démarrage Intel, parce qu'ils ont été très innovants très vite. Du coup, le côté super innovant de l'entreprise tout de suite va nous intéresser. Et donc, alors un premier point qui est intéressant, c'est qu'elle est créée par des ingénieurs de haut niveau, hein, qui étaient déjà très reconnus dans la Silicon Valley, qui ne s'appelait pas encore la Silicon Valley. Ils étaient, en fait, il y a deux entreprises qui séparément ont inventé le circuit intégré, hein, le fait de non plus de souder des transistors un par un sur des circuits, mais de les graver directement avec des machines. Donc le circuit intégré a été d'un côté inventé par Texas Instruments et de l'autre par Fairchild Semiconductor. Donc de mémoire, le principe du circuit a quand même été inventé plutôt par Texas Instruments, mais c'est Fairchild qui a permis de les fabriquer en quantité, de mémoire. Hein, là, donc, c'était vraiment, en gros, il y avait deux entreprises qui ressortaient un peu nettement à l'époque en Californie, qui commençaient seulement à. C'était Hewlett-Packard, HP, et Fairchild. Donc, du coup, c'était vraiment l'entreprise de référence. Certains auteurs considèrent qu'à une certaine époque, il y avait à peu près 80% des ingénieurs qui circulaient dans les entreprises de la Silicon Valley qui avaient, à un moment donné de leur carrière, été chez Fairchild. L'un des fondateurs d'Intel, Bob Noyce, est un des co-inventeurs du circuit intégré façon Fairchild. Bon, pour l'anecdote, ils avaient déjà, Fairchild avait été créé par une série de cadres, dont Bob Noyce, qui avait quitté une première société qui s'appelait Shockley Semiconductors et qui était une société créée par l'un des inventeurs des transistors, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel de physique pour ça. Donc, il était vraiment. Voilà, apparemment, d'une part, il était un peu infect en termes de caractère et d'autre part, il était très concentré sur l'innovation de produit, le produit lui-même, et assez peu sur les problèmes de fabrication, alors que les cadres en question ont senti que c'était la fabrication qui allait devenir le point clé de la compétitivité sur le marché. Et donc, ils ont préféré partir et créer leur propre société, donc Fairchild. Deux Fairchild sont à nouveau sortis. Bob Noyce, Gordon Moore, notamment, c'est les deux principaux, hein, pour créer Intel. Et donc, à l'origine, Intel est créé pour inventer ou contribuer à l'invention d'un nouveau type de mémoire, qui est le type de mémoire qu'on a tous. Dans nos ordinateurs, nos smartphones, nos tablettes, etc. Hein. Donc de la mémoire à semi-conducteur qui n'était pas le type de mémoire qui était présent dans les ordinateurs à l'époque. Alors, Intel est bien né, puisque sur la base du simple projet, d'un simple projet papier, hein, pas de business plan, pas de. Elle parvient à lever 2,3 millions de dollars. Or, 2,3 millions de dollars de 1968, j'ai regardé avec les tables d'équivalence, tout ça, ça correspond à peu près à 15 millions de dollars d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que. On voit des tours de table plus impressionnants dans les entreprises, mais je rappelle que là, c'est le premier tour de table. Hein, on verra ça plus tôt dans le management de projets innovants, puis peut-être que vous en entendrez parler dans d'autres cours avant, mais en tout cas, c'est leur premier tour d'amorçage, hein, le seed capital. Et là, pour du seed, c'est quand même pas mal, 15 millions. Hein. Et ça, c'est tout simplement fait, c'est tout simplement lié au fait que ce sont des références en matière d'électronique. Donc, on se doute que si des personnes comme ça prennent le risque de quitter leur emploi, il y en avait un qui était directeur de la R&D, je crois, et l'autre, je ne sais plus, des opérations. Enfin bref, ils avaient des postes de haut niveau très bien payés chez Fairchild. Hein. Je crois que l'un des deux était. Noyce devait être vice-président aussi. Voilà, c'est pour qu'ils quittent l'entreprise pour créer leur propre projet. C'est qu'a priori, le projet tient la route. Et par ailleurs, voilà, ils ont. Voilà, entre Bob Noyce qui a co-inventé le circuit intégré et alors elle n'est pas encore aussi connue à l'époque, mais peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de la loi de Moore. hein, qui veut que, grosso modo, le nombre de transistors sur un semi-conducteur double à peu près tous les 2 ans, ben c'est bien le Gordon Moore en question. Et la première version de sa loi avait été... il l'avait indiqué dans une interview dans une revue spécialisée en électronique en 1965. Bon, tout ça, vous n'avez pas besoin, je vous rassure, hein, de le retenir, hein, simplement pour que vous ayez quelques éléments de contexte. Mais alors, ce qui va être particulièrement intéressant pour nous chez Intel, c'est même pas un élément en particulier, c'est que vraiment, il y a plein de thématiques intéressantes sur Intel. Pour vous dire, j'ai même dans mes projets d'essayer d'écrire un ouvrage de management de l'innovation avec pour fil directeur la seule entreprise d'Intel. Alors évidemment, nous, on ne verra pas toutes les thématiques autour d'Intel, puisqu'on verra d'autres sociétés, ça aurait été un peu lassant pour vous, hein. Vous n'êtes pas obligé d'adorer les semi-conducteurs. Mais voilà, c'est simplement pour vous dire que l'exemple d'Intel est très riche et permet d'aborder plein, plein, plein de problématiques de management de l'innovation. Mais là, en l'occurrence, c'est notamment, ils ont notamment été à l'origine de plusieurs innovations radicales, hein, au tout début de leur histoire. Apple, faut-il présenter Apple? Bah, peut-être, parce que en fait, souvent on connaît l'Apple d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est une entreprise qui est à peine plus jeune qu'Intel, hein. C'est aussi une entreprise californienne. Leur siège social n'est pas loin du tout de celui d'Intel. Donc c'est un peu aussi une histoire de start-up typique, hein, donc dans le domaine informatique. Alors, évidemment, il y a le côté un petit peu, un petit peu, comment dire, pas la légende, mais voilà, qui fait partie du storytelling, qui est l'entreprise californienne qui démarre dans un garage. Vous savez que ça fait partie des éléments un peu clés de la façon dont les Américains vont percevoir la spécificité de la Silicon Valley. C'est ces entreprises qui démarrent avec des bouts de ficelle, en gros, avec très peu de choses, dans un garage. Et ça, c'est lié au fait que messieurs Hewlett et Packard avaient lancé leur entreprise dans un garage. Et du coup, c'est resté un peu associé à ça. Alors, dans le cas de Apple, il semblerait que ça n'ait pas tout à fait commencé dans le garage, mais que ça ait commencé dans la chambre de la sœur de Steve Wozniak, qui est un des deux créateurs d'Apple. Bon, évidemment, elle a modérément apprécié d'avoir des cartes électroniques partout. Dans sa chambre, et donc elle les a mis dehors. Donc là, ils sont allés dans le garage. Mais bon. Alors, elle a introduit pas mal d'innovations dont elle n'est en général pas ni la pionnière ni l'instigatrice. Donc ça serait intéressant là aussi en termes de définition de l'innovation, hein, mais... Elle est la première à avoir popularisé l'interface graphique inventée par Xerox. Elle est la première à avoir créé un personal digital assistant moderne avec le Newton. Mais il y avait eu des choses qui ressemblaient déjà avant. Elle n'est pas du tout la première à avoir introduit un smartphone, contrairement à ce qu'on voit assez souvent dans les travaux des étudiants, surtout les travaux des étudiants qui aiment bien leur marque Apple, donc pas du tout. Mais par contre, ça a été la première à doter un smartphone d'un écran tactile, de la même façon, après, à faire un grand iPhone. Avec l'invention de l'iPad. Un grand iPhone qui téléphone pas. Mais alors, ce qui est intéressant aussi dans cette entreprise, c'est que elle a quasiment failli disparaître dans les années 90. Hein. Elle a subi, enfin, milieu plus que, enfin, ouais, on va dire, le moment le plus critique, c'était 96-97, pour donner un ordre de grandeur. Et puis, ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est qu'à l'origine, c'est vraiment une entreprise d'informatique. Hein. À la base, ils font des ordinateurs. Et aujourd'hui, les ordinateurs, c'est vraiment plus que une partie de leur gamme de produits et qui ne représente plus que une partie très très minoritaire de leur chiffre d'affaires. Et on verra que c'est en partie intentionnel et en partie émergent comme stratégie. Enfin, donc cinquième entreprise, Netflix. Donc là, elle est plus récente, donc on va pouvoir la prendre à son démarrage. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout la manière dont elle s'est transformée, dont elle a transformé son business model. Sachant qu'au départ, hein, Netflix, il loue des DVD. Donc voilà. Alors, ce qui est déjà innovant au départ. Hein, donc ça va nous permettre de réaborder la question de l'innovation stratégique. Ça va nous permettre aussi de nous intéresser à l'impact sur les leaders lorsqu'une entreprise lance une innovation stratégique sur un marché. Puisque du coup, à l'époque, aux États-Unis, il y a un très très large leader de la location vidéo qui s'appelle Blockbuster et qui va tout simplement disparaître sous les coups de Netflix. Donc, bon, je vous l'ai dit, entreprise de service, une innovation stratégique, l'exemple de l'incumbent curse, donc de la malédiction des leaders. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle s'est radicalement transformée, mais si on regarde bien, elle s'est transformée en gardant les mêmes compétences de base, les mêmes compétences distinctives. Elle en a rajouté d'autres, hein, comme par exemple la capacité à produire des séries à succès ou ce genre de choses. Mais dès le début, en fait, c'est une entreprise qui va beaucoup fonctionner avec l'optimisation par le numérique, avec des algorithmes permettant par exemple de conseiller quel DVD louer. Donc si jamais vous avez Netflix, ça vous rappellera des choses par rapport à aujourd'hui. Donc évidemment, le fait que à la base, ça soit une entreprise très numérique va faciliter ta transition vers une entreprise qui sera complètement dématérialisée. Et donc, quelque part, certes, ils n'ont pas multiplié les produits comme Kao ou Sharp, comme les exemples que j'ai donnés hein, avec ma stratégie du bonsaï. Néanmoins, ils ont quand même modifié leurs produits en s'appuyant sur un certain nombre de ressources et compétences qui, elles, sont restés relativement fixes. Alors fixes, oui. En tout cas, sont de même nature que celles qui étaient au départ. Hein, il y a deux fondateurs, mais celui qui est considéré comme ayant eu plus d'influence, il avait fait fortune en créant une société qui vendait des programmes de débugage des logiciels. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le pur informatique. Voilà ce qui vous attend en termes de contenu. Maintenant, je ne sais plus si j'ai mis une... Non, j'ai pas mis de slide, mais je sais que si je m'arrête là et que je vous demande si vous avez des questions, vous allez me dire comment on est évalué. Alors, comme on est au début de l'année, que vous n'êtes pas encore débordé, si on peut mettre une évaluation un peu costaud, sinon vous risquez de vous ennuyer. Et donc, en fait, tout au long du cours, à un moment où c'est pertinent par rapport aux thématiques qu'on vient d'aborder, eh bien, je vous proposerai des sujets. Au total, je compte vous en proposer 6. Après, sur ces 6 sujets, vous pourrez soit en faire 3, soit en faire 4, soit en faire 5, soit en faire 6. De toute façon, je prendrai les 3 meilleures notes. Donc, si vous voulez faire le minimum, vous en faites 3. Si vous voulez maximiser vos chances d'avoir la meilleure moyenne possible, vous en faites 6. Et puis évidemment, vous avez toute la gradation. Enfin, vous avez la gradation 4 et 5 entre les deux. Donc ça comptera pour 60% de la note globale. Et puis, par ailleurs, vous aurez une analyse alors soit d'un dispositif d'innovation, soit de la stratégie d'innovation, soit d'innovation. Je vous repréciserai ça. Quand je dis soit, c'est vous qui aurez le choix. C'est pas moi qui sais pas encore. Donc, en tout cas, vous allez analyser le cas concret d'une entreprise de votre choix. Voilà. Mais ça, ce sera après, ce sera à la fin du cours, hein, puisque du coup, autant pour les sujets en cours de route, vous avez besoin de mobiliser ce qu'on viendra de voir, autant, bah, évidemment, pour l'analyse complète, vous aurez besoin d'avoir eu le cours complet. Voilà de quelle manière vous serez évalué dans ce cours-là, puisque je rappelle que les évaluations d'un cours à l'autre varient beaucoup. C'est moins, comment dire, c'est moins cadré, j'allais dire stéréotypé, ça ferait un peu péjoratif, alors que ce n'est pas du tout péjoratif dans mon esprit. En tout cas, voilà, en M1, pour ceux qui viennent du M1, vous avez systématiquement vos 2 devoirs d'entraînement et puis un examen final. Là, vous aurez des différences très fortes d'un cours à l'autre. Vous allez pitcher un projet, vous allez faire des business model canvas, vous allez faire des business plans, vous allez faire plein de choses différentes et selon les cours, ben, des fois vous aurez plusieurs évaluations plutôt légères. Parce que, évidemment, hein, les six évaluations que je vais vous donner en premier ne sont pas des choses très très lourdes à faire individuellement, hein. Le dernier cas, j'attends quelque chose de plus costaud, mais et puis dans d'autres, bah, vous aurez quelque chose de léger, puis quelque chose de lourd, par exemple une première présentation orale, puis un business plan. Donc vous avez plein de combinaisons, soit beaucoup d'évaluations, enfin beaucoup, plusieurs évaluations légères, soit moins d'évaluations mais plus lourdes. Vous aurez plein de configurations différentes. Donc dans cette matière-là, d'abord, c'est que de l'écrit, alors que vous aurez certaines évaluations qui sont orales. C'est que de l'individuel, alors que dans d'autres cours, vous aurez aussi des évaluations collectives. Hein. Et voilà, ça se traduira par ces 6 sujets, parmi lesquels vous en choisirez au moins 3, d'une part, et puis une analyse d'une entreprise de votre choix, d'autre part.